Depuis qu'il est rentré, le père d'Amos reste la plupart du temps assis dans le grand fauteuil du salon. Il pose des mains sur sa cuisse et regarde droit devant lui. Il ne fait rien d'autre. Et, surtout, il ne parle presque pas. Il est là, c'est tout. Quand il est revenu, c'était une journée de grosse pluie. Toute la famille était près du poêle. La mère préparait la soupe. Sarah lisait, avalée par le fauteuil dans lequel le père s'est installé depuis. Amos faisait ses devoirs sur la table de la cuisine.
La porte de l'entrée s'est ouverte d'un coup, aidée par le vent. Ils se sont tournés brusquement et l'ont vu. Une ombre immense, là, sous leurs yeux, après 2 ans, 1 mois et 16 jours d'absence. Il n'a pas dit un mot. La mère a d'abord étouffé un petit cri, puis s'est précipitée vers lui. Elle lui a retiré son manteau trempé, elle a aidé à enlever ses bottes, l'a assis sur le fauteuil près du feu.
Pousse-toi, Sarah, laisse ton père s'asseoir là.
Elle s'est agitée, a préparé un café, a coupé du pain. Amos et sa soeur n'ont pas osé bouger. Ils ont regardé les allées et venues de leur mère, hypnotisés. Ils n'osaient pas regarder leur père, leur minuscule père perdu dans leur grand fauteuil. Et puis la mère s'est assise là, derrière le père. Elle a posé ses mains sur lui. Elle a commencé à lui caresser ses épaules. Doucement, doucement, elle s'est mise à chanter une berceuse, un air pour les bébés. Tout en lui caressant les épaules, Amos et Sarah sont restés là longtemps, comme ça, immobiles, à écouter leur mère chanter, près du feu, à suivre les ombres danser sous le visage de leur père. La mère fermait les yeux et chanta et caressa comme si elle voulait lui rendre en une fois les 2 ans d'amour perdus. Depuis ce soir-là, il n'a presque rien dit. Des jours que cela dure.
Sarah et Amos vont à l'école. En rentrant, ils s'installent à la table de la cuisine. La mère leur parle de tout et de rien. Des devoirs, de ses travaux de couture, du sac de pommes de terre apporté par la voisine. De tout, du soleil qui tente à venir, de rien. Sarah dit qu'il lui fait peur, qu'il est trop maigre, qu'elle entend crier dans la nuit, que ses cauchemars, il pourra se les garder pour lui, qu'on n'avait pas besoin de ça, que c'était mieux sans lui, finalement. Amos et elle se fâchent parce que le petit garçon défend son père.
Il a fait un très long voyage, tu comprends? Il lui est arrivé un grand malheur à cause des Allemands. Beaucoup d'autres ne sont pas rentrés. C'est un miracle s'il est là avec nous, vivant.
Vivant, tu parles. On dirait un fantôme, le fantôme de papa. Voilà qui en a récupéré. Merci pour le miracle, merci bien.
Amos se met à pleurer. Il déteste quand Sarah dit toutes ces choses affreuses. Il la laisse là-haut à jouer sur le mur de pierre. Et il court vers la maison.
Maman est à la ferme des 80. Elle rentrera plus tard.
Voilà les premiers mots que Amos lui dit. Le père lève les yeux vers lui, ses yeux gris, ses yeux pleins de miel, ses yeux noyés dans le brouillard. Amos ne trouve rien d'autre à lui dire. Il a l'impression que sa phrase résonne entre les murs de la cuisine. Il s'approche de son père, s'assoit par terre à ses pieds. Il ne dit rien, il attend. Ça dure des tas de secondes, et puis ça dure des heures très longues. Pas un mot, juste le souffle du père, près de lui, un miracle.
Les autres jours, Amos laisse sa mère et Sarah partir avant lui le matin. Il attend le petit moment, le tout petit moment qu'il partage avec son père avant de filer à l'école. Il le retrouve à l'atelier où il bricole. Il travaille le bois durant des heures, tôt le matin et tard le soir. Le même morceau de bois qu'il scute, polie, caresse, le même, toujours depuis les 2 jours. Amos l'observe, il ramasse les copeaux qui tombent au sol, balaie un peu.
Thank you.
C'est ce soir-là qu'Amos a décidé de parler. De parler beaucoup. De parler trop. Pour effacer. Aujourd'hui, Amos rentre dans l'école les mains dans les poches, en donnant de grands coups de pied dans les cailloux. C'était une journée compliquée. Une de celles qu'il raconte à son père avec un croquis, pour mieux comprendre.
Les autres ont commencé à se moquer de lui, à lui dire
« Ton père, il est mort, les Allemands l'ont tué, c'est pas le vrai qui est rentré. »
Alors Amos s'est battu. Il a essayé de se retenir, puis il a foncé dans le tas. Il a tapé sur tout ce qui bougeait. Il a cassé le nez des billes, tiré les cheveux de François, en hurlant pour faire sortir toute sa haine. Monsieur Albert les a séparés. Les autres ont pleuré et ont promis de se venger.
Vous avez fait assez de tort comme ça. Vous serez punis. Vous devriez avoir honte.
Leur a dit le maître. Puis, il a relevé Amos et l'a aidé à essuyer le sang qui coulait de ses lèvres.
Ta blessure de guerre, mon petit bonhomme. Va, rentre chez toi. Salue ton père pour moi. C'est bientôt la fin de l'année scolaire. Ne t'en fais pas.
Amos franchit le portail du jardin. Il n'a pas envie de rentrer à la maison, de montrer ses plaies à son père. Il aurait peut-être peur, il serait peut-être déçu, il voudrait peut-être aller voir les parents des deux garçons. Peut-être. Il se dirige vers le grand arbre au fond du jardin. Il grimpe et s'installe sur la branche qu'il préfère, celle qui ressemble à un crocodile à gueule ouverte. Il s'assoit là, sort son cahier noir pour dessiner sa journée si compliquée.
Personne ne l'a vu monter dans l'arbre. Il peut rester là, tranquille. Amos entend sa mère l'appeler depuis la cuisine. Une fois, puis deux. Elle finit par sortir dans la cour et il la voit faire le tour de la maison, les mains sur les hanches.
Il se tait dans son arbre. Il est bien. Plus de Sarah, l'oiseau de mauvaise augure. Plus de François, plus d'Émile. Bientôt, il fera nuit. Il commence à avoir froid.
J'aurais dû prendre une couverture et des restes de repas d'hier.
Il voit des lumières qui s'agitent autour de la ferme. Trois Sarah, maman. Et le père, il le recherche, il l'appelle. Amos tient bon.
Une des lampes semble se rapprocher et Amos sent rapidement une présence au pied de l'arbre. Il cesse de respirer. Il voudrait être invisible, que personne ne le retrouve jamais. Son père est là, tout près. Il lève la lampe à bout de bras pour voir son fils. Il fait le tour de l'arbre sans un mot. Amos sent le cahier noir lui échapper des mains, sent le bruit sourd du cahier qui alerte le père.
Amos, c'est toi ?
C'est la première fois depuis son retour qu'Amos entend la voix de son père. Sa belle voix forte et fragile. Il a dit son prénom.
Amos, réponds-moi, mon petit.
Oui, c'est moi, papa.
Descends, tu fais peur à ta mère. Rentre au chaud.
Non, je reste. Je suis bien ici. Je ne veux plus y aller.
Où ça?
À l'école. Je ne veux plus y aller. Jamais.
Amos pense que son père va se fâcher, que ce sera sa première colère, la première colère d'après-guerre. Mais le père tourne les talons et rentre vers la maison. Quelques minutes passent. Amos compte dans sa tête. Il entend de l'agitation dans le grenier, des bruits de pas, une dispute.
Tu es devenu complètement fou, Simon.
Et la porte qui claque fort.
Il s'installe plus bas, là, où un été, le père avait construit un plancher, le début d'une cabane qui n'a jamais pu finir. À cause de cette nuit d'horreur où les SS l'ont pris alors qu'il faisait une livraison en ville, à cause des 2 ans, 1 mois et 7 jours volés.
Il revient! Il revient me chercher des forces!
Et puis,
le père apparaît à nouveau, tirant une boîte derrière lui. Il pose une échelle contre l'arbre.
Si tu ne veux pas descendre, mon Amos, c'est moi qui monte. Aide-moi, prends ça.
Dit-il à son fils en lui tendant des couvertures, deux oreillers, du pain, des œufs, quelques pommes et de l'eau.
Amos reste d'abord muet. Sans réfléchir, il attrape ce que lui donne son père et dépose tout sur le plancher.
Maintenant, à moi de grimper. Aide ton père. Tends-moi la main.
Amos obéit et tire de toutes ses forces pour aider à se hisser sur l'arbre.
Ils entendent la mère crier depuis la cuisine. Sarah près d'elle.
Vous êtes deux fous, deux enfants fous.
Le rire du père part comme ça, deux coups. Un rire immense, fort, inouï. Amos, d'abord étonné, commence à rire aussi. Il n'arrête plus, ça dure longtemps. Le père s'en tient les côtes, comme s'il riait au lieu de pleurer, comme s'il riait pour chaque coup reçu, pour chaque ami mort sous ses yeux, pour chaque seconde passée loin des siens.
Et si on restait là, si on passait tout l'été dans l'arbre, hein, mon Amos, qu'en dis-tu?
Même si Amos sait bien que ce ne sera pas possible, que sa mère ne le laissera pas faire, qu'elle craindra qu'il attrape froid, qu'elle n'aura peur pour lui, pour eux, qu'il finira par pleuvoir malgré tout ça.
Amos et son père s'installent, essayent de se faire un lit, en posant les oreillers contre le tronc et en s'allongeant sur les couvertures. Ils sont serrés, des années sans se voir, sans se toucher, et maintenant, un lit pour deux. Amos a envie d'appeler sa sœur pour qu'elle voie ça.
Il est bien vivant, tu vois?
Il a envie d'appeler Émile et le gros François.
Il est bien vivant, ferme-la!
Il a envie d'appeler les nazis, ceux qui l'ont arraché d'ici.
Il est vivant, vous ne l'avez pas eu. Et la cabane, on va la finir tous les deux. Fermez-la, tous, et laissez-nous tranquilles.
C'est le premier soir.
La mère a d'abord râlé de loin, et puis elle a dû comprendre qu'il se passait quelque chose d'important. Là-haut, dans cet arbre. Elle a apporté une lanterne et deux crêpes.
Ils ont vu sa petite silhouette sautillante rentrer à l'intérieur. Longtemps qu'elle n'a pas couru comme ça. Pendant 2 ans, elle avait l'air de porter la douleur du père sur ses épaules, sans jamais se plaindre.
Amos n'a rien dit du tout en la voyant repartir légère. Il pense que son père a compris, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Papa doit bien se douter que ce n'était pas facile tous les jours ici, pendant son absence, et que c'est elle qui s'est occupée de la ferme. Elle a continué ses travaux de couturière malgré tout. Mais rien à voir avec ce qu'il a vécu dans les camps. C'est une des premières choses que la mère a dit à Sarah et à Amos après le retour du père.
Faudra pas se plaindre devant lui. Il a vécu tellement pire. Faudra sourire, être fort, tous les trois. Faudra le porter, quand il sera fatigué. L'aider à se relever, quand il tombera.
Tu vas pas tomber, hein, papa?
Tu veux dire tomber de l'arbre?
Amos ne répond pas. Il avale sa crêpe en deux bouchées. Le père fait pareil. Jusque-là, même la soupe avait du mal à passer.
Amos, tu dois me raconter ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Parle, ne reste pas muet.
Alors Amos raconte. Émile, François, les moqueries, Sarah et ses petites phrases assassines. Il raconte aussi comment ils ont tenu le coup pendant ces longs mois. Il parle de son copain, Isaac, qui n'est pas encore rentré. Ni lui, ni sa famille. Personne n'a de leurs nouvelles. Certains disent qu'il est caché quelque part, d'autres disent qu'il ne rentrera jamais, qu'il est mort en déportation. Amos parle des cauchemars qu'il fait parfois la nuit, ou des rêves, ou de ces rêves étranges éveillés qui arrivent quand son esprit s'évade, même à l'école.
Amos parle si longtemps, là, bien installé contre son père, qu'il finit par s'endormir. Simon voudrait rester éveillé, le regarder dormir, protéger son sommeil, mais il s'effondre aussi après avoir éteint la lanterne. Quand il se réveille, la mère a déposé du pain, du lait frais et du café dans un panier.
On a bien dormi, hein, mon bonhomme?
Oui, on est bien.
À cette heure-là, Sarah doit déjà être à l'école. Amos a l'autorisation de son père pour quelques jours d'école buissonnière. Ils ont l'été devant eux.
Faudra occuper les journées.
Il nous faudrait un jeu de cartes.
Oui, et puis mes habits du dimanche, du beurre de micelle, une bassine pour se laver et...
Pourquoi pas le Powell? Pour avoir chaud le soir, mon établi pour sculpter un peu et des œufs frais tous les matins.
Tu as raison, papa. On est bien comme ça. Mais maman n'est pas dans la maison. On peut quand même aller chercher quelques petites choses.
Amos et Simon descendent de l'arbre. Se faufilent dans le jardin en essayant de ne pas se faire voir. Des voisins. Et rentrent de la maison. C'est une drôle d'expédition. Ils sont venus chercher un jeu de cartes en cachette. Le père prend quelques livres. Amos attrape une poignée de prunes, puis il retourne rapidement chez eux, avant le retour de Sarah et de la mère.
Mais avant de remonter, le père décide de faire un tour à l'atelier. Il récupère quelques planches, des clous et son marteau rouillé. Amos a compris.
On va finir cette cabane et on invitera ta mère et ta sœur à monter dans l'arbre avec nous.
Amos voudrait que son père raconte lui aussi. Il hésite à lui poser des questions. Il pense à ce qu'a dit sa mère au début. Il fallait lui laisser du temps. Qu'il raconterait un jour ce qu'il a vécu là-bas. Mais qu'il ne fallait pas le presser.
Amos attend. Les premiers jours se passent ainsi. Entre jeux de cartes, petite histoire d'école, souvenirs d'avant. Sarah ne reste jamais bien longtemps, mais elle vient les voir parfois.
Hier, elle a déposé un paquet pour Amos. Dans une vieille page de journal, elle a glissé un plumier et un cahier neuf. De temps en temps, il voit la mère s'active au jardin. Elle leur fait des petits signes de la main. Une fois, Simon a envoyé un baiser à sa femme, d'un souffle de la main. C'était beau à voir. Amos en aurait bien pleuré un peu. Et puis, non. Les larmes, il les garde pour le jour où le père parlera. Il sait qu'il en aura besoin.
C'est un soir, après avoir mangé et bu un peu de cidre, que Simon a commencé.
Tu sais, Amos, là-bas,
c'était la lecture de l'album « 8 saisons et des poussières » de Séverine Vidal, lecture accomplie par les élèves des Incorruptibles, année 2015-2016.